Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
En 12 ans et 16 livres, il est devenu l'un des maîtres français du thriller. Nous recevons ce matin l'homme qui fait trembler d'effroi ses lecteurs pour leur plus grand plaisir. Franck Tillier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez donc aujourd'hui même aux éditions Fleuve Noir votre 17e roman. Il est intitulé Le manuscrit inachevé. En écrivant vos propres histoires, vous arrive-t-il de vous faire peur ?
Oui, je me fais peur en permanence et je pense que c'est quelque chose de nécessaire. La peur, on vit avec quand on est auteur de romans policiers. En même temps, moi, c'est une sensation, un sentiment qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout jeune. J'étais fasciné par cette capacité qu'avaient des romanciers ou des cinéastes à nous transmettre cette émotion qu'est la peur sans nous connaître. Et je trouvais ça fascinant et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de finalement d'écrire, c'est de retransmettre à mon tour la peur à mes lecteurs.
Mais il y a deux étapes, il y a celle de décider d'être écrivain et ensuite celle de choisir ce genre si particulier qui est celui du roman d'effroi en quelque sorte.
Oui, alors là,
vous racontez des histoires à vous-même pour vous faire frissonner. Vous dites ça doit marcher avec les autres.
Oui, c'est un peu ça. J'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez psychanalytique parce que j'ai toujours été attiré par ce genre depuis que j'ai 13-14 ans. J'adorais me faire peur en fait. Ce sont deux sentiments très paradoxaux. Adorer se faire peur et je pense que c'est ce que ressentent les lecteurs. C'est-à-dire ils prennent ce livre, ils savent qu'ils vont avoir une peur bleue parce que c'est assez terrible les histoires que je raconte. Et en même temps, ils y prennent beaucoup de plaisir. Et je pense que ces deux zones dans le cerveau sont très très proches l'une de l'autre et donc je pense qu'il y a des communications et on prend du plaisir à se faire peur et moi j'aime beaucoup ça.
C'est amusant parce qu'en fait vous décrivez deux sentiments successifs, celui un de la trouille terrible et en fait après du soulagement, ce n'était qu'un roman.
Oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi les gens me surprennent toujours quand ils me disent grâce à votre roman je me suis évadé. On vit dans un monde assez noir et puis les romans sont très sombres et je me dis mais comment c'est possible ? Et finalement c'est ça, c'est-à-dire que ça reste du roman et finalement les horreurs que traversent les personnages dans le livre, et bien finalement, on se dit notre vie est quand même pas si mauvaise en réalité, puisqu'il y a des gens qui vivent des choses bien plus horribles dans les livres.
Est-ce qu'il vous arrive de vous demander ce que vous avez dans la tête ? Et surtout, est-ce que vos proches, vos amis, ceux qui partagent votre vie, se disent, mais quand même, c'est un petit peu particulier ce qui se passe dans la tête de Franck ?
Oui. Alors ça, c'est la première réflexion. Alors, de ma famille, maintenant, ils me connaissent depuis quand même un certain temps. J'ai écrit 17 livres. Au début, ça a surpris beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais ce sont surtout les lecteurs qui viennent me voir et qui sont surpris, finalement, entre la personne que je suis et ce que j'écris. Ils viennent me voir et me disent mais monsieur vous êtes normal en fait. Oui. Et je leur dis mais oui je suis complètement normal et je pense qu'il faut l'être vraiment pour au contraire il faut avoir un esprit très équilibré, très rationnel pour écrire ce genre d'histoire.
On va détailler le manuscrit inachevé qui paraît au Fleuve Noir dans quelques instants, mais vous savez que nous avons une journée tout à fait particulière consacrée à mai 68 aujourd'hui, Franck Tillier. Sur RTL toute la journée, une journée spéciale. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Grâce à vous il est possible de revivre sur RTL.fr l'intégralité des programmes de l'époque, 24 heures de programmes d'information mais aussi des variétés de l'époque. Et cette année, 68, les plus grandes stars ont défilé à RTL, l'occasion parfois de prendre position sur les événements, bien évidemment.
Exactement. Tenez, par exemple, on est le 2 avril 1968. Jacques Brel est l'invité de Michel Cogoni. L'occasion pour lui d'évoquer les révoltes étudiantes, celle de Nanterre, qui pour l'instant n'a pas encore débordé au quartier latin.
Il me semble qu'à 20 ans, j'en ai 40, là, on remettait tout en question aussi, avec des moyens différents. Avec beaucoup moins d'argent, certainement, beaucoup moins de
Est-ce que vous ne faites pas peur, cette montée ?
Pas une seconde, elle est plutôt réconfortante. Je trouve qu'ils ont bien raison de remettre tout en question. Parce que ce que nous leur avons servi, ce que nous leur servons quotidiennement, c'est quand même pas glorieux, c'est quand même pas très beau. On ne leur offre pas un paradis, cela dit, on a peut-être osé encore leur dire que le paradis existait.
C'était le dernier moyen de défense.
De notre génération ?
Oui.
Elle aurait le mérite des coups sur les angles.
Paradis n'existe pas. Peu d'artistes prendront la parole pendant le mois de mai 68. La plupart le feront après ou avant, en juin, alors que la France est appelée par De Gaulle à élire une nouvelle Assemblée nationale. C'est un Johnny prudent qui explique ceci face à Philippe Bouvard. Nous sommes le 29 juin 1968, veille du second tour des législatives.
Vous intéressez de très près à la politique ?
Non, pas de très près.
Non, mais enfin là, comme tout le monde,
bien sûr. Ça m'intéresse parce que quand même je suis français et je crois que ça intéresse tous les Français.
Et les événements du mois de mai, même quand vous étiez à Londres, vous les avez suivis au jour le jour ou vous voyez ça d'un peu loin ?
Par la radio, oui, bien sûr. Je n'étais pas à Paris. que j'enregistrais en anglais à cette époque-là.
Et si vous aviez été à Paris, est-ce que vous seriez venu à l'Odéon ou dans des endroits comme ça, ou est-ce que vous estimez que c'était plus sage de rester chez soi?
C'est pas une question d'être sage, c'est que je pense que ce qui se passait à l'Odéon, ça ne me,
ça vous concernait,
ça ne me concernait pas.
Oui, je crois que vous avez raison.
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Et puis, il y a les pas concernés du tout par cette jeunesse en révolte, comme Françoise Hardy, qui n'a alors que 24 ans.
C'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez y participer?
Ça m'intéresse, mais je ne me sens pas réellement concernée, forcément, puisque je ne suis pas en proie à tous ces problèmes. Ça m'intéresse.
Mais à la fois leur foi et leur désordre, leur anarchie, pour employer un mot à la mode, est-ce que ce sont des choses qui sont proche de vous?
Pas vraiment, parce que je veux dire que mon monde est très très différent du leur.
Vous ne participez pas au grand mouvement adolescent de l'époque, par exemple?
Je ne crois pas, et j'ai un peu honte à le dire, parce que c'est peut-être pas bien, c'est peut-être, je veux dire, c'est une forme de...
D'égoïsme,
oui, et de paresse aussi.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Les événements du mois de mai inspireront beaucoup d'artistes français, hein, comme Jacques Dutronc ou Nougaro, mais aussi outre-Manche, qu'RTL aura l'occasion d'aller voir et de rencontrer. Ce sont les Beatles, quelques mois après mai 68. Voici ce que John Lennon dit des révoltes de la jeunesse à travers le monde, au micro de Jean-Bernard Hébé et Andrew Manderstein.
Mais nous arriverons à un point où tous les vieux, ceux avec des idées fixes, seront tous morts. Et puis ce sera nous les vieux. Et il y aura beaucoup plus de personnes avec l'esprit large comme nous. Et chaque génération, il y aura de plus en plus de personnes comme nous. Alors il faudra peut-être attendre encore 2000 ans de progrès avant que nous puissions découvrir notre paradis. Voilà ce qui nous incite à travailler.
Makes me keep going.
Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world.
Quand on entend John Lennon parler de sa vieillesse, c'est quand on connaît le destin qu'il a eu, c'est vrai que c'est particulier pour le coup.
Jacques Brel, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, les Beatles, tout cela sur RTL. Tous ces artistes sont donc à retrouver dans les différentes émissions de l'époque sur la radio éphémère. RTL 68, disponible donc pendant 24 heures sur RTL.fr. Franck Killier, vous êtes né en 73,
oui.
Vous êtes un grand garçon, mais vous n'avez pas connu tout cela. Ça évoque quelque chose pour vous? On a le droit aussi de ne pas s'intéresser à mai 68. Il y a des gens qui me disent, moi, le cérémonial en ce moment autour de tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, dites-nous la vérité.
Si, c'est une date qui a quand même marqué l'histoire de notre pays, parce qu'il y a eu un avant et un après, et puis ça, elle montre qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la société. Et quand on est auteur de romans policiers, on s'intéresse à ces dysfonctionnements. Alors, c'est vrai que c'est un peu loin aujourd'hui. J'aime bien cette idée de cinquantenaire et finalement de rappeler cet événement aux générations qui ne l'ont pas connu. Et finalement, il y a des combats qui sont menés. Alors, qui sont pour moi très différents de ceux de mai 68, parce qu'on est dans deux sociétés qui sont complètement différentes. En mai 68, il y avait vraiment cette jeunesse qui avait cette volonté d'échapper du carcan familial. Il y avait la femme qui voulait avoir ses droits aussi. Bon, aujourd'hui, les combats sont un peu différents. Il y avait quelque chose de profondément utopiste en mai 68, c'est-à-dire on voulait aller vers une société meilleure. Aujourd'hui, on veut, je pense, aller vers une société moins sombre. C'est un peu ça. Ouais. On essaye de la rendre moins pire qu'elle n'est aujourd'hui, alors qu'avant, il y avait vraiment cet élan de liberté et d'avenir est très positif, en fait.
Et pourtant, vous êtes édité au Fleuve Noir. C'est votre 17e roman, le manuscrit inachevé. On en parle dans un instant après une première pause. Franck Tillier est avec nous jusqu'à 9h30.
RTL, laissez-vous tenter. 9h09. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h10, Franck Tillier, vous publiez donc aujourd'hui même aux éditions Fleuve Noir votre 17e roman, Le Manuscrit Inachevé. Alors c'est toujours très délicat de résumer un suspense. Comme souvent chez vous, Franck Tillier, se déploient deux affaires qui finiront en fait par se rejoindre. D'un côté, le cadavre mutilé d'une jeune femme est retrouvé dans le coffre d'une voiture volée du côté de Grenoble. De l'autre, une institutrice du nord de la France, reconvertie reine du thriller, vit un cauchemar depuis 4 ans. Sa fille, enlevée par un tueur en série, n'a jamais été retrouvée. Le Manuscrit Inachevé est une nouvelle plongée plongée vers l'effroi, diaboliquement orchestrée. Le trouble est d'autant plus grand que votre fiction télescope une réalité récente, la tragique disparition d'Angélique à Avant-Brechy. Vous arrive-t-il, vous, de vous inspirer de faits divers réels ?
Oui, on est nourri hein, quand on est auteur de romans policiers, mais de manière générale, romancier, on se nourrit de tout ce qui nous entoure. On fonctionne un peu comme des éponges qui vont absorber tous les signaux qui sont autour de nous, mais ça peut être quelque chose d'extrêmement simple. Hein. Une personne qui va traverser la rue, qui va nous interpeller parce qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Mm-hmm. Évidemment, l'actualité, les faits divers, c'est vrai que c'est une matière dans laquelle on puise parce qu'on se rend compte finalement que les meurtriers ont une imagination sans faille et ils ont parfois des scénarios plus complexes que ce qu'on peut imaginer, ce qui est particulièrement horrible. Et puis après, les grands faits de société, moi j'aime bien me pencher sur ces faits-là, plutôt de manière scientifique ou médicale, des scandales autour du sang contaminé, la mémoire, le cerveau.
Alors justement, c'est l'une de vos sources d'inspiration, c'est à coup sûr la science en général, la médecine en particulier. D'où vient cet attrait chez vous ? Vous êtes rêvé médecin ?
Oui, peut-être. Quand on est romancier, on peut faire un peu tous les métiers, c'est, oui. C'est ça qui est génial. Mais j'ai une formation scientifique, j'ai toujours adoré les maths, la physique, la biologie, et donc c'est vrai qu'écrire ces romans policiers, ou dans le métier même des policiers, il y a une police scientifique, donc il y a de la science, j'aime bien mettre en avant ce qui touche les gens en fait, c'est-à-dire que les histoires racontent c'est des histoires autour du don d'organes, de la mémoire, du sang, du fonctionnement du cerveau, donc les gens ça les intéresse, parce qu'ils disent, mais la mémoire, comment elle fonctionne, comment ça se fait que j'oublie mes clés, elles sont sur moi, mais je ne les retrouve pas, donc c'est ces éléments-là qui m'intéressent.
Alors justement, cette fois-ci, vous êtes intéressé aux troubles de la mémoire, l'amnésie que l'on connaît bien, son contraire, l'hypermnésie, et un trouble qu'on connaît moins, la cryptomnésie. De quoi s'agit-il ?
Alors la cryptomnésie, c'est quelque chose qui nous fait un peu peur à nous, les artistes et les romanciers. C'est la sensation qu'on a de créer et d'inventer sa propre histoire, alors qu'en fait, on l'a déjà vue ou lue quelque part, mais on a oublié. Elle a disparu de notre mémoire complètement. Mais de
ça
manière...
s'appelle le plagiat aussi en littérature.
Alors oui, mais le plagiat est quelque chose de volontaire dans le plagiat. C'est-à-dire on prend une œuvre et on essaye de la transformer un peu, on la reproduit. La cryptomnésie, c'est d'avoir lu un jour cette œuvre, et puis au moment où on l'a... dans un moment de création pure, on se dit « mais j'ai une idée géniale oui. », on l'écrit, sauf qu'elle ne vient pas de nous, en fait. Et donc ça, c'est assez terrifiant pour les romanciers. Et puis cette hypermnésie, oui, effectivement, j'ai un personnage de flic qui est hypermnésique. Alors quand on est policier, c'est très pratique, parce qu'on peut se souvenir d'une scène de crime 2 ans après, mais c'est quand même un supplice à supporter, cette mémoire.
Oui, c'est un bagage lourd à porter.
Oui, il se souvient de tout. Il se souvient dans 2 ans, il pourra dire de quelle couleur était votre chemise, quelle plaque d'immatriculation il a traversée avant de venir chez RTL. Et donc, ça encombre sa mémoire. Et donc, par exemple, l'anniversaire de sa propre fille, il l'oublie parce qu'il est rangé au même niveau que tous ces éléments dans sa mémoire. Donc, il souffre énormément, ce personnage.
Mais vous vous êtes interrogé sur le fait que vous puissiez vous-même être atteint de cryptomnésie, ou même de vous dire, oh là là, mais cette idée formidable que j'ai eue, d'où est-elle venue ? Est-ce que j'ai pu la recomposer, la reconstruire d'une certaine façon, c'est-à-dire faire du plagiat sans le savoir.
Oui,
en
alors,
toute bonne foi, vous comprenez.
C'est une de ces peurs.
À l'insu de votre plein gré.
Oui. C'est une des peurs qu'on a quand on commence à écrire, vraiment de se dire, mais je suis en train d'écrire une histoire de tueur en série, ou quelle que soit l'histoire, on se dit, mais elle a dû déjà exister. En fait, on admet à un moment donné que toutes les histoires ont été écrites, c'est-à-dire tous les grands thèmes ont été abordés, la vengeance, le triangle amoureux, la trahison, tout ça, ça a existé. Et en fait, ce qui compte, c'est de prendre ces éléments-là et de faire une histoire à notre sauce. Un roman policier, c'est un meurtre. Un assassin et une victime. Dans ce cas-là, tout a été écrit, si on part du principe, de la première définition.
Oui.
Donc c'est chacun qui va, avec son propre univers, avec ses propres personnages, qui va amener sa patte et vraiment créer des histoires très originales.
Franck Tillier, vous documentez beaucoup avant d'écrire ?
Oui, énormément. J'écris à peu près un livre par an et ça me prend la moitié du travail. Ça, j'y tiens vraiment, de beaucoup me documenter par écrit, d'aller rencontrer les gens. J'ai travaillé avec l'Institut Pasteur de Lille, par exemple. Je suis allé rencontrer les scientifiques. Là, j'ai rencontré les spécialistes sur la mémoire, sur le sommeil, vraiment. Je prends beaucoup de plaisir. C'est pour ça que je vous disais que je fais un peu tous les métiers, parce que je passe du temps avec ces gens-là et je vois un peu à quoi ressemble leur métier. Donc, il y a vraiment cette jouissance aussi de se faire plaisir dans ce métier d'écrivain. Il y a ce plaisir-là aussi,
mais
dans l'écriture.
Pardonnez-moi, vous aviez la trame dans votre tête avec ses tensions et ses ressorts, bien entendu, et qui sont toujours liés à ce type de livre. Et après, en gros, vous prenez rendez-vous comme un journaliste pourrait le faire, et d'une certaine façon, vous les rencontrez, vous les interviewez, vous collectez de l'info. ou ça peut venir tout simplement, ah tiens, j'ai envie d'aborder ce thème-là, et j'y vais tout seul comme un grand, parce que...
Il y a les deux, il y a vraiment soit j'ai un peu une trame, un peu comme le Vendée Globe, vous savez d'où partent les bateaux, vous savez où ils arrivent, oui. Vous savez pas ce qui va se passer. Les navigateurs non plus, pourtant ils connaissent leur route, et c'est un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai cette idée-là, et je vais voir les spécialistes, et quand vous rencontrez quelqu'un, un journaliste, un médecin, et vous discutez 2 heures avec lui, c'est comme si vous aviez lu un roman de 600 pages, enfin un livre de documentation de 600 pages, parce que il y a le contact humain, et puis vous allez aller directement... On va vous donner des petites anecdotes qu'on ne trouve nulle part, et c'est ça qui est intéressant pour un romancier.
Alors, vos livres sont longs, 500 pages, vos chapitres généralement très courts, et ils se terminent à chaque fois par un rebondissement, une révélation. J'allais vous dire, c'est une technique formidable, mais c'est surtout imparable. On ne peut pas vous lâcher, et ça, c'est volontaire.
Oui, complètement. C'est tout un travail, autant que la documentation et l'écriture. C'est une couche supplémentaire, c'est la gestion du suspense. C'est-à-dire, moi, j'ai des maîtres comme Hitchcock, et donc j'ai regardé comment ça fonctionnait. Le suspense, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut générer de l'attente, de la frustration chez son lecteur. Mais c'est une frustration très positive, en fait. Il est tellement frustré qu'il se dit, il a envie de continuer à lire. Et là, on change de personnage, par exemple. Et il nous en veut un peu, donc il passe à un nouveau personnage, il revient. Et en fait, il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas trop énerver le lecteur, il ne faut pas trop le perdre. Il faut le prendre un peu par la main, mais en même temps, le faire jouer. Pour moi, écrire ce genre de roman, c'est un vrai jeu. Je prends ça comme un jeu. Le jeu du chat et la souris. Je suis le chat et le lecteur et la souris. Ou l'inverse. C'est ce jeu-là tout au long du livre. Je pense que les lecteurs le ressentent bien, vraiment, quand ils s'immergent dans ces romans-là. C'est que cette notion de plaisir que j'ai pu ressentir à l'écriture, ils la ressentent à la lecture.
En fait, vous osez nous dire qu'il y a des ficelles et que ça vous amuse de jouer avec elles, c'est ça ?
Oui, il y a des ficelles, évidemment, et puis c'est un vrai plaisir. Mais c'est un peu comme une recette, c'est-à-dire une recette de cuisine. Il y a des bons chefs et des mauvais chefs, et on ne fera pas les mêmes recettes avec les mêmes ingrédients.
Alors, vous venez de nous dire que vous pouviez éventuellement vous inspirer de la réalité, des différents faits divers, c'est ce qu'on expliquait, en tout cas, concernant le début de ce livre. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être rattrapé par la réalité ? C'est-à-dire d'avoir conçu une histoire policière, un thriller, un thème qui vous-même vous effrayait en vous disant ça va générer du frisson, et de découvrir ensuite que soit une affaire venait à vous, soit la une de l'actualité ou d'un journal racontait ce que vous aviez imaginé d'une certaine façon.
Oui, c'était très stupéfiant et troublant. J'ai écrit un roman qui s'appelait Atom K il y a quelques années. Oui. Dont le centre du roman était la centrale de Tchernobyl, donc c'était autour du nucléaire, et le début du roman se passe en 1986, donc date de l'explosion, et puis après on revient dans le présent, parce que c'est une enquête poussière dans le présent. Et dans le roman, j'arrêtais pas de dire ça ne se passera plus jamais, le nucléaire, etc. Et pendant vraiment l'écriture, il y a Fukushima qui explose. Et je me suis arrêté d'écrire, enfin, ça m'a vraiment perturbé, parce que j'étais vraiment plongé dans mon livre, dans ma direction. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je ne pouvais pas continuer à écrire mon livre et ne pas tenir compte de ce qui s'était passé. Parce que je disais un peu le contraire dans mon roman. Donc j'ai dû vraiment adapter, modifier la structure de mon histoire pour pouvoir intégrer ce qui s'était passé dans le monde d'aujourd'hui dans mon roman. Donc ça arrive extrêmement souvent. Ça m'est arrivé aussi à l'Institut Pasteur. Je crée dans Pandémia, c'est une épidémie de grippe. Ouais. Il y a une épidémie d'Ebola au même moment, alors que j'en parlais aussi dans mon roman. Oui, parce que je suis toujours vraiment au fait de l'actualité scientifique en l'occurrence. Donc forcément, on est toujours rattrapé. Mais c'est bien, ça prouve que les romans sont vraiment dans l'air du temps.
C'est perturbant ?
Ah oui, c'est perturbant. Ça fait un peu peur, hein, parce que quand on écrit ce genre de livre, on se plonge un peu dans la partie négative du monde et de la société. C'est-à-dire, on pointe un projecteur sur un élément particulier qui nous intéresse, le don d'organes. Mmh. Et le projecteur va dévoiler derrière qu'il y a eu des trafics d'organes, des dictatures, où on revendait des organes de prisonniers, etc. Et donc ça fait peur, parce qu'on plonge vraiment dans les méandres de, on va dire, un peu du mal, entre guillemets. Et quel que soit le domaine qu'on va éclairer, on va toujours trouver quelque chose.
Il a un regard d'enfant, mais il aime nous raconter des histoires qui nous terrorisent. On vous retrouve dans un instant, Franck, à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Au fleuve noir. C'est le 17e et il est intitulé Le manuscrit inachevé. Restez avec nous.
RTL, laissez-vous tenter, 9h20. RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL. Alors on vous offre le manuscrit inachevé, hein, le nouveau thriller de Franck Tillier, dédicacé et publié au Fleuve Noir, avec en bonus son roman précédent, Charcot, édité en poche chez Pocket, si vous répondez à la question que je vous pose tout de suite. Elle est vraiment extrêmement gentille. Hein. Combien de romans a écrit Franck Tillier ? Vous nous appelez tout de suite au 3210. Combien de romans a écrit Franck Tillier ? Franck Tillier, on soulignait tout à l'heure le talent avec lequel vous orchestrez vos intrigues. Comment procédez-vous ? Avez-vous un canevas et connaissez-vous systématiquement la fin avant même d'écrire, ce qui paraît a priori logique. Vous savez, c'est ce que nous apprenaient nos professeurs. Pour bien faire une rédaction, il faut connaître sa chute, etc., etc.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire de manière générale. J'ai l'esprit assez cartésien et organisé, donc j'ai trois étapes principales dans l'écriture. La première, c'est de trouver l'idée principale de mon livre, l'idée maîtresse qui va guider vraiment l'écriture. La deuxième, c'est de me documenter. Et c'est en me documentant que je construis la trame de mon roman, on en parlait tout à l'heure, mais le fait d'aller voir des gens, des scientifiques ou des personnes, ça crée aussi mes chapitres, ça me donne des idées. Donc c'est à ce moment-là que ma carte, mes étapes du Vendée Globe se tracent. Et puis, c'est vrai qu'une fois que je me mets à l'écriture, je sais globalement où je vais essayer de tracer ma route. Donc le syndrome de la page blanche, on va dire, je ne connais pas pendant l'écriture, mais c'est avant. C'est avant parce que c'est au moment où on recherche une idée, vous savez, il y en a 99,9% qui vont aller à la poubelle pendant deux mois et en permanence, on cherche des idées. Puis à un moment donné, il y a celle qui est la bonne, mais qui n'arrive jamais tout de suite, qui arrive toujours à la fin, en fait. Et quand on l'a, pour moi, quand j'ai cette idée-là, je me dis, pour moi, le travail est quasiment fini. Le reste, c'est du travail, mais voilà, trouver l'idée, c'est la période la plus difficile pour moi.
Et alors, pour le manuscrit inachevé, c'est venu comment, cette histoire ?
Ah, c'est venu de plusieurs choses. C'est la frustration déjà de ne jamais pouvoir parler de son métier, de dire ce qu'on ressent quand on écrit. On est beaucoup enfermé avec nos personnages, avec nos idées très sombres. J'avais envie de mettre en scène un personnage écrivain de thriller, exactement comme moi, qui vient de publier un roman et à qui il arrive une horreur puisque sa fille disparaît. Et comment vivre ? Je me suis posé la question, c'est-à-dire si moi il m'arrivait quelque chose d'aussi terrible, est-ce que je serais encore capable de créer, de raconter des histoires, même très longtemps après ? Donc il y avait cette interrogation-là, et donc ça permet au lecteur de découvrir un peu l'arrière du décor, la mémoire qui m'intéresse énormément, comment fonctionne un souvenir, comment ça se passe dans la tête de ceux qui ont tout perdu. Et puis, une idée très forte aussi, ça a été aussi le guide du roman, c'est qu'est-ce qui se passerait si un jour j'étais face potentiellement au meurtrier, au kidnappeur de ma fille ? J'ai tout pouvoir sur cette personne, mais je ne sais, j'ai 50% de chance que ce soit elle et 50% de chance que ce ne soit pas elle. Donc qu'est-ce que je fais ? Et donc ça aussi, c'est vraiment au cœur du roman. On est un peu dans l'actualité aussi.
Vous mettez dans des situations psychologiques terribles avant de nous les livrer. Hein.
Oui, non,
mais c'est un dialogue avec vous-même. C'est ce qu'on comprend vraiment dans cet entretien qu'on a ce matin.
Oui, c'est vraiment, on est confronté à des éléments compliqués. J'essaye de garder une distance entre les éléments que je découvre et ce que j'imagine et moi-même, un peu comme un journaliste, comme le métier que vous faites. C'est-à-dire vous êtes confronté parfois à des choses terribles, mais vous êtes avant tout journaliste. Votre but, c'est de retranscrire ce que vous voyez, le présenter aux gens. Et moi, c'est un peu exactement ce qui se passe.
Essayez de conserver une vigilance, quoi qu'il arrive.
Exactement.
Votre premier métier était ingénieur informatique. Est-ce qui vous êtes à construire vos histoires ?
Ah oui, mais si je n'avais pas été ingénieur informatique, je n'aurais jamais écrit une histoire, je pense. Ça m'aide dans la construction, dans la capacité à résoudre des problèmes, parce qu'écrire un livre, c'est être confronté en permanence à des problèmes qu'il faut surmonter, surtout des histoires policières, où tout doit s'enclencher à la perfection. Il y a mon attrait pour la science. Vous savez, la police aujourd'hui, c'est 50% de gens qui vont sur le terrain, et puis de police scientifique qui prend de plus en plus de place, et viendra peut-être un jour où il n'y aura quasiment que de la police scientifique. Donc ça me...
Vous y croyez ? J'y crois pas une seconde, il faudra toujours le flair de quelqu'un.
Oui. Et d'ailleurs, moi, j'y tiens...
Sinon, il suffirait d'un ordinateur pour écrire, pour écrire des romans comme le vôtre.
Exactement.
C'est Franck Tillier qui les écrit, qui les publie et qui les imagine.
Oui, non, mais ça, c'est vrai. Moi, j'y tiens vraiment à continuer à mettre... Et j'insiste très fortement dans mes livres en disant, voilà, le flic, le flair du flic, l'ADN n'est pas la reine des preuves, etc. Mais c'est vrai que la science est de plus en plus présente. Mais voilà, il faut que l'humain soit là. Et moi, je suis en train de réfléchir aussi pour un prochain autour de l'intelligence artificielle, des data et justement de ce problème-là, c'est-à-dire est-ce qu'un jour les machines vont tous nous chasser, et c'est vraiment des sujets d'actualité intéressants.
Franck Tillier est avec nous dans quelques instants. Vous saurez, grâce à vos appels au 3210, si vous avez gagné son dernier roman, Le Manuscrit Inachevé, qui sort aujourd'hui au Fleuve Noir. Je vous rappelle que nous vous offrons aussi Charcot, qui est édité en poche chez Pocket. C'était son roman précédent. On se dit au revoir dans un instant.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvin.
Nous vous offrons Le Manuscrit Inachevé, le nouveau thriller de Franck Tillier ce matin, dédicacé, publié au Fleuve Noir, ainsi que Charcot, édité en poche chez Pocket. C'était votre avant-dernier roman. Combien de romans avez-vous écrit, Franck Tillier ?
17.
Voilà. Eh ben, il suffisait c'est de nous ça. Appeler au 3210. On n'a pas été très méchants. Juste avant de nous séparer, la meilleure fin pour un polar, c'est quoi ? C'est de rester inachevé ?
Écoutez, c'est celle où tout se joue dans la dernière phrase. Et je vous livre un scoop. Les gens vont penser que c'est une fin ouverte, Le Manuscrit Inachevé, et tout est dans la dernière phrase.
tout est dans la dernière phrase. Vous êtes très très futé pour nous aguicher une fois de plus. On était heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie du manuscrit inachevé, votre 17e roman, publié donc au Fleuve Noir. Très bonne journée à vous.
Merci.
Merci à toute l'équipe, à Laurent Marsic. Et tout de suite, on retrouve Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour. Vous êtes-vous posé la question, la meilleure façon, la meilleure phrase pour finir une émission ?
Oui, je voulais dire un truc inachevé, c'est ça ?
Voilà.
Oui. Moi, je pense qu'on peut faire comme ça des boucles d'interview sans fin.
Ah oui. Merci beaucoup, mon Yves.
Bonne émission, Julien. Allez, vous aussi, avec plaisir. Salut.
Vous écoutez RTL.